Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient notre partage. Amen. Nous sommes encore une fois en train de bénir le Seigneur qui nous permet de venir devant lui, l'adorer, mais aussi l'écouter. Je vais vous inviter à la lecture de la parole de Dieu dans le livre de Psaumes. Nous allons lire le psaume 103. Nous commençons la lecture au 8e vers jusqu'au 12e. Et après, nous allons lire le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 5. Le verset 1er jusqu'au 11e. Psaume 103, le 8e vers jusqu'au 12e. La parole de Dieu nous dit ce qui suit. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 5, le 1er verset jusqu'au 11e. La parole de Dieu dit ceci. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ. » Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens, s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur ? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses, c'est la parole de Dieu. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous sommes devant ta face ce matin. Toi qui nous as invités dans ta présence, afin que tu nous parles. Seigneur, nous sommes devant toi. Parle-nous et accepte que ta parole trouve place dans nos cœurs. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pour rappel, le dimanche passé, nous avons parlé du thème qui était intitulé « Tu ne voleras pas, Dieu pourvoira ». Et nous nous sommes dit que il y a plusieurs choses de ce monde, des inquiétudes de ce monde dont nous avons peur et qui nous amènent à violer la loi de Dieu. Dieu a établi la loi, pas pour son bien, mais pour le bien de son peuple, afin que ce peuple vive en harmonie avec lui, mais aussi afin que ce peuple puisse vivre en harmonie entre dans la société. Mais souvent, les inquiétudes de la vie nous amènent à aller loin de la volonté de Dieu. Et nous arrivons même à chercher d'autres dieux, alors que Dieu, il dit, « Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. » Et en ce jour, nous nous sommes dit ce jour-là que la Bible dit que Dieu est Dieu hier, il est Dieu aujourd'hui et il est Dieu éternellement, c'est-à-dire notre Dieu est au-delà du temps. Et donc, s'il nous a protégés hier et s'il nous protège aujourd'hui, il nous protégera aussi demain parce qu'il nous y est déjà précédés. Et en ce jour, aujourd'hui, nous voulons parler de Dieu de paix, Dieu miséricordieux, mais dévorant. Le Dieu à qui nous croyons, et c'est Dieu qui nous appelle à avoir confiance en lui. Il est le Dieu de paix, Apendi Mihali Namutu. Il est le Dieu miséricordieux, le Dieu compatissant. Mais il n'est pas seulement le Dieu miséricordieux. Dans sa miséricorde, dans sa paix, dans sa justice, dans sa bonté, dans sa sainteté, il est aussi Dieu dévorant. C'est Dieu qui dévore. C'est Dieu qui est comme le feu. Et pour comprendre notre prédication de ce jour, nous allons articuler cela à trois petits points. Le premier point, nous allons parler du Dieu miséricordieux. Comme nous venons de le lire en psaume, nous allons parler en deuxième lieu du Dieu dévorant, comment Dieu montre sa face dévoratrice, mais aussi comment, qu'est-ce que nous pouvons faire devant ces dieux miséricordieux, mais aussi les dieux qui peuvent se montrer comme méchants en un moment donné de la vie. Nous venons de lire, bien-aimés dans le Seigneur, le livre de Psaume. Le psaume 103, du premier vers au 12e vers, mais nous avons commencé au 8e vers notre lecture. Ce texte nous parle de l'exaltation de Dieu. Le psalmiste remercie le Seigneur pour ses hauts faits. Le psalmiste, il loue et il vante les qualités de Dieu. Mais malgré cela, nous savons, nous tous, que depuis le jardin d'Éden, la chute de l'homme dans le jardin d'Éden a entraîné toute la création dans le péché. Nous tous qui sommes descendants d'Adam, nous sommes entraînés dans le péché. Et le péché a entraîné la mort. L'homme pécheur, c'est un homme mort, un homme séparé de Dieu. Mais par contraste, le psalmiste énumère les bénédictions que Dieu a réservées à son peuple, comme nous avons suivi la lecture. Et l'excellente bénédiction dont il parle, c'est le pardon du péché. Nous avons péché dans le jardin d'Éden. Le Seigneur nous a pardonné en envoyant son Fils unique et notre péché a été pardonné. Si vous lisez la Bible, vous allez sentir que même nos maladies ont été emportées par la croix de Jésus-Christ. Nous avons reçu la rédemption. Nous sommes de nouvelles créatures. Mais aussi, enfin, nous avons la vie éternelle en Christ. Alors, le pardon étant le don principal que nous recevons de Dieu. Mais ce pardon-là découle du caractère de Dieu. Le pardon découle du caractère de Dieu ou de ses attributs. Comme nous avons lu le huitième vers qui a parlé des attributs de Dieu, les caractéristiques de Dieu, ce que Dieu est. La Bible a dit, Dieu, il est le Dieu de compassion. C'est-à-dire, est Dieu compatissant. Le Dieu de grâce. La grâce, une faveur que nous recevons de Dieu, ça que nous l'ayons mérité. Et il est le Dieu de la grâce. Même lorsque nous pouvons nous comporter un peu très mal, sa grâce peut l'amener à nous regarder et dire, je vous pardonne. La Bible dit, il est riche en bonté. Bonté. Bonté à Swahili, c'est moema. Il est bon, notre Dieu. Il y a une autre caractéristique ou un autre attribut dont la Bible parle dans ce même verset, dans ce même vers. On dit, il est lent à la colère. Il est lent à la colère. Ça veut dire, si vous continuez avec la lecture de ce psaume, le psalmiste va vous montrer que Dieu, quand il marche avec les enfants d'Israël, son peuple élu comme modèle, comme paradigme, comme matériel didactique de sa révélation dans le monde, même dans sa marche avec les enfants d'Israël, quand ils sortent de l'Égypte vers Canaan, la Bible nous montre que Dieu a été patient envers son peuple. Même à un moment donné, le peuple pouvait se rebeller contre Dieu, mais Dieu est patient. Ils ont besoin de l'eau, il donne de l'eau. Ils ont besoin de la nourriture, il donne de la nourriture. Parce qu'il s'est révolté de temps à autre. Ce qui montre que le Seigneur est compatissant envers nous et dans toutes nos situations, c'est ce que nous vivons. Parce que si Dieu devait nous punir pour tout ce que nous faisons de mal, ou si Dieu pouvait nous punir à proportion de nos péchés ou de nos comportements, personne d'entre nous peut-être ne survivrait une minute ou une seconde. Tu peux t'imaginer de la manière dont tu te comportes. Si Dieu te punissait de la manière dont tu te comportes, est-ce que tu serais vivant à cette minute? Si Dieu voyait ce que tu es, ce que tu penses, et dit que celui qui pense comme toi, tu étais en train de penser avant d'entrer dans ce temple, il ne doit pas entrer dans ce temple. Une fois entré, tu vas mourir. Peut-être que nous serions tous des cadavres ici. Mais Dieu, au lieu de diriger sa colère sur nous, il nous arrose d'amour et de compassion. Le Seigneur nous aime. Il est compatissant. Et c'est ça ce que nous enseignons de Dieu. C'est Dieu d'amour. C'est Dieu qui est bon. C'est Dieu qui nous aime et il nous prend comme une mère, une bonne mère. Une mère responsable prend soin de son enfant, de son bébé. Même un enfant qui a déjà 60 ans, quand sa mère, si sa mère existe encore, la mère cherche toujours à voir comment est en train de vivre son enfant de 60 ans. Et donc même notre manière d'être, notre vie spirituelle, notre manière de marcher avec Dieu, le Seigneur, il s'occupe de nous, il nous regarde, il nous voit, il nous accompagne. C'est pourquoi il nous dit de ne pas nous inquiéter de toutes les tribulations qui peuvent nous arriver. Parce qu'il est le Seigneur qui est au contrôle. Il est le Seigneur qui est là pour nous. Oui, ce Dieu de compassion qui est là pour nous, celui qui nous accompagne en toutes circonstances de la vie. Remarquez une chose maintenant. La Bible a dit, il est le Dieu de compassion. La Bible a dit, il est le Dieu de grâce. La Bible a dit, il est le Dieu riche en bonté. La remarque dont je parle, c'est quand la Bible parle de la colère. On dit, il est lent à la colère. Lent à la colère. Je ne sais pas si vous vous imaginez la signification de cela. Quand on dit, il est lent à la colère. Moi, j'ai pensé que comme il est Dieu de compassion, il est Dieu de grâce, Dieu riche en bonté, on devait dire pas de colère chez lui. Mais on dit lent à la colère. Le Seigneur a la colère, mais il use de patience dans sa colère. Ça veut dire quoi? Dieu, dans sa justice, il est silencieux dans sa colère, mais il n'est pas calme. Bon, si nous lisons le dictionnaire, il est possible que le silence et le calme aient presque une même signification. Mais il y a des nuances. Quelqu'un peut être silencieux, il vous regarde seulement. Mais quand il va agir par rapport à ce qu'il regardait chez vous, vous allez sentir qu'il était silencieux, mais il n'était pas calme. Les hommes, nous qui sommes ici, prions le Seigneur que nous ayons des femmes qui sont calmes et non silencieuses. Parce que quelqu'un qui est silencieux, c'est une bombe à retardement. Bombe à retardement parce que quand on est silencieux, on s'assoit, on regarde. Et quand on est silencieux, on prend des stratégies. Qu'est-ce que je vais faire quand il va finir? Ça, c'est silencieux. Mais le calme, lui, il est calme. Il n'y a pas de vagues, il reste. Il est calme, il n'y a pas de problème. Alors, quand la Bible dit « il est lent à la colère », ça veut dire lorsque nous marchons avec ce Dieu de la grâce, ce Dieu compatissant, ce Dieu qui est bon, sachant que c'est Dieu qui a la colère, mais il est lent dans l'exécution de sa colère. Ça veut dire il suspend son attribut de colère, sa caractéristique de colère, il peut la suspendre. Quelqu'un qui est suspendu ou quelque chose qui est suspendu peut encore tomber. Si on dit qu'on va suspendre quelque chose ici, c'est-à-dire on le suspend, ça veut dire on va mettre, on va lier de l'autre côté, ça va être à un moment donné, celui qui l'a suspendu peut aller couper la corde et ça va tomber sur vous. Alors la colère de Dieu, celui qui est lent à la colère, il suspend sa colère. Quand il va le vouloir, il peut couper la corde qui a suspendu cette colère et la colère va se déverser sur vous. C'est Dieu qui est de bonté. C'est Dieu qui est compatissant. Je crois que nous sommes en train de suivre. Dieu est silencieux dans sa colère, mais il n'est pas calme. Lorsque tu vas te comporter de manière à provoquer sa colère, il peut être silencieux parce qu'il est compatissant, parce qu'il est patient. Mais à un moment donné, il peut te montrer sa face. Ça veut dire, Dieu dans sa justice punit donc le péché. La grâce que nous avons à Dieu, ou bien la patience que Dieu nous montre, n'est pas synonyme que nous devons utiliser d'une manière abusive cette grâce-là. Nous devons savoir que celui qui nous donne la grâce, il est aussi le Dieu de la justice. Il est aussi le Dieu qui ne peut pas permettre que là où il y a l'ancienneté, qu'il y ait aussi des souillures. Il est très rapide à pouvoir trancher entre la sainteté et la souillure. Et comme il est Dieu très saint, il prend parti de la sainteté. Ça, c'est la première chose, notre premier point. Dieu miséricordieux, de bonté, celui qui sait ce que nous sommes, celui qui sait nos faiblesses, celui qui sait nous patienter, celui qui sait nous pardonner quand nous venons auprès de lui et lui dire, Seigneur, nous reconnaissons que nous avons péché. Et il nous dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes pardonnés. Vos péchés vous sont pardonnés. Mais celui-là, il est juste. Il est Dieu très saint. C'est Dieu-là qui sait corriger ceux qui vont à l'encontre de sa volonté. Et là, ça va nous permettre d'entrer dans notre deuxième point, qui est la figure du Dieu dévorant. Et nous allons voir la manière dont Dieu s'est comporté dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, face aux gens qui ont pris d'une manière abusive sa grâce. Et ici, nous venons de lire le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 5, le verset 1er jusqu'au 11e. C'est une histoire que nous connaissons. Nous n'allons pas entrer dans l'exégèse de ce texte, nous allons voir ce qui est superficiel. Ici, nous voyons une mort qui est subite et violente d'Ananias et Saphira. Et ces gens-là sont morts devant Dieu. Et cette mort-là, aujourd'hui, avec le droit de l'homme et beaucoup d'autres choses, il est possible que nous puissions penser qu'il n'y a pas eu droit de l'homme. Avec aussi les enseignements que nous recevons, que Dieu est bon, il ne veut pas du mal à nous. Et quand nous pensons que Dieu ne veut pas du mal à nous, parmi le mal, nous ne pouvons pas compter la mort. Donc si la mort nous arrive, il est plus possible de penser que le Seigneur n'a pas été bon pour nous. Ananias et Saphira sont morts. C'est Dieu qui est compatissant. On ne nous parle pas des affaires d'Ananias et de Saphira. Mais c'est Dieu compatissant. C'est Dieu qui est bon. C'est Dieu qui est plein de bonté ou de grâce. Il n'a pas eu pitié de ses orphelins. Il pouvait dire, comme cet homme qui vient de mourir, sa femme peut rester avec les orphelins. Il n'a pas eu pitié. Parce que la lenteur de la colère n'était plus lente. Le silence venait de produire les fruits. Il est possible que nous puissions avoir dans nos têtes ce Dieu qui est mythique, comme un mythe, comme s'il n'existait pas. C'est Dieu qui est comme un Père, on l'appelle Père Noël. Celui qui vient seulement vers nous pour nous donner des cadeaux, parce qu'il est le Dieu compatissant. Nous proclamons la grâce excessive de Dieu, celui qui est toujours à notre place. Et possiblement, même nous nous approchons devant lui avec légèreté. Nous nous approchons avec légèreté. Et même avec irrévérence, nous ne les révérons même pas. La révérence, nous pensons qu'il est habitué à ce que nous sommes. Mais nous devons savoir le contraire, que les auteurs bibliques, quand ils ont écrit, ils ont montré les deux faces de Dieu. Le Dieu qui aime sa création, mais le Dieu qui punit aussi lorsque la création va à l'encontre de sa volonté. Il n'est pas seulement le Dieu de grâce, mais aussi il est le Dieu feu dévorant. Si vous lisez Deutéronome chapitre 4, verset 24, ou Hébreux 12 et 29, la Bible parle de l'aspect redoutable de Dieu, qui est feu dévorant. Et cet aspect-là devrait nécessairement obliger à chacun de nous la vénération et l'adoration avec tremblement. Et donc le Seigneur, qui est le Dieu de grâce, le Dieu de l'amour, lorsque nous l'adorons, nous devons venir au devant de lui avec crainte et tremblement. Crainte et tremblement précédés par la joie. Parce que la joie que nous avons à Christ par sa grâce, nous devons manifester cette joie, mais cette joie doit être accompagnée par la crainte et le tremblement. Parce que celui à qui nous venons devant lui, il n'est pas notre égal. Il n'est pas notre égal, c'est Dieu. Dieu, lui, il est capable de tuer ses propres adorateurs. Les gens qui vont se placer à travers ou au travers de sa sainteté. Dieu sait et il veut que ceux qui les servent soient saints. Il est capable, dans son aspect dévorant, de pouvoir tuer les gens qui vont se placer au travers de sa sainteté. Et certains exemples dans l'Ancien Testament, c'est ainsi qu'au sujet de Er, Er c'est une personne qui est le fils de Judas, Judas fils de Jacob. La Bible dit, si vous lisez Genèse chapitre 38, le verset 7, la Bible dit, Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Être méchant aux yeux de l'Éternel, on ne définit pas quelle était cette méchanceté, mais on dit seulement qu'il était méchant devant l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Si vous lisez le verset 10 de ce même Genèse 38, son frère Onan, dans leur culture, lorsque le grand frère vient de mourir, on demande à son petit frère qui n'est pas encore marié de prendre son épouse pour perpétrer ou donner la généalogie à son grand frère. Son petit frère qui était Onan, il a accepté, mais il déversait sa semence productive en dehors, à l'extérieur. Et la Bible dit au verset 10, parce qu'il ne voulait pas donner la progéniture à son grand frère. La Bible dit, ce qu'il faisait de plus à l'Éternel, qui le fit mourir. Donc pour Dieu, quand il a décidé de te faire mourir, il n'a pas de problème et il ne pleure pas. Souvenons-nous de la marche du peuple d'Israël dans le désert. Ils ont expérimenté l'aspect dévorant de Dieu à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Le peuple qui a murmuré que Dieu donne de l'eau, Dieu a donné. En un moment donné, ce même peuple qui a murmuré que Dieu donne de la nourriture, Dieu a donné la nourriture. Mais ils se sont révoltés. Comment nous mangerons une même sorte de nourriture chaque jour? La Bible dit en Nombre 11, 33, 34. La Bible dit, comme la chair de cette nourriture-là était encore entre leurs dents, sans être manchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple. Et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie, ordonnant à ces lieux le nom de Kibroth Hatava, parce qu'on y enterra le peuple que la convoitise avait saisi. Le problème ici, c'est quoi? C'est le manque de reconnaissance. Vous demandez à Dieu ceci, il vous donne, et après vous dites, comment vous nous donnez ceci chaque jour? Quel est votre niveau de reconnaissance dans la situation que nous vivons aujourd'hui? Qu'est-ce que vous dites à Dieu aujourd'hui? Êtes-vous reconnaissant ou êtes-vous satisfait de ce que Dieu vous donne aujourd'hui même pour ne pas échapper à cette colère? Parce qu'il est possible que nous prenions ces prétextes. Nous ne sommes plus même capables d'aider les autres parce qu'il y a un prétexte du contexte dans lequel nous vivons. Oh, je ne peux plus être capable parce que. Le prétexte. Est-ce que vous vous souvenez maintenant aussi de la bénédiction que le Seigneur vous donne pendant ces temps ici? Ou bien vous vous murmurez? Corée, c'est le chef des chantres. Si vous lisez ceux qui ont des Bibles, Louis Segond, en haut, dans les psaumes, il y a souvent là où on dit psaume de David, ailleurs on dit psaume de Moïse, on peut encore dire psaume de Corée, chef des chantres. Corée, il était le chef des chantres, c'est-à-dire il était un lévite, il était de la lignée des lévites, les gens qui devaient servir au temple. La Bible dit, lui, Dathan et Abiram, ils se sont rebellés contre Dieu et contre son serviteur Moïse. Et ces gens ont connu l'aspect dévorant de Dieu. La Bible dit en Nombre chapitre 16, le verset 33-34, « La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leur maison, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. » Ici, nous avons la rébellion contre l'autorité établie. Le Seigneur, lorsqu'il a établi une autorité, si vous vous rebellez contre cette autorité, c'est que vous vous rebellez contre le Seigneur lui-même et vous allez trouver le Seigneur devant votre face. Ces gens, Corée, celui qui était chantre. Souvent, nous nous rebellons. Il y a souvent des petites rébellions dans l'Église. Et pas seulement dans l'Église, dans la société, partout. Il y a des rébellions. Et nous oublions que le Seigneur a établi celui qui est là. Mais nous devons savoir que si nous prenons un tel comportement, il est possible que nous puissions aussi subir ce que Corée avait subi. Ce n'est pas seulement ça. Ils étaient morts avec 250 personnes qu'ils utilisaient. Donc le chef, il est mort avec tous les choristes. Donc le dimanche prochain, le dimanche qui a suivi, il n'y avait pas de louange et adoration dans ce culte-là, ce jour-là. 250 sont morts. Alors, ce qui m'étonne est que, après la mort de ces 250 personnes, le peuple s'est adressé à Moïse et a dit, c'est à cause de toi que ces gens viennent de mourir. Cela a encore causé du mal à Dieu. Si vous lisez Nombre, chapitre 16, le verset 41, il y eut 14 700 personnes qui moururent de cette plaie, outre ceux qui étaient morts à cause de Corée. Les gens qui étaient morts à cause de Corée, c'était 3 plus 250. Le peuple dit, avec la compassion, mais Dieu amena encore la plaie. Vous allez jouer avec moi, je ne suis pas comme vous. 14 700 personnes sont mortes. Et comme les autorités que Dieu établit ont toujours la compassion, si vous lisez le chapitre 16 là de Nombre, Moïse lui-même encore, il dit à Dieu, Seigneur, pardonne ton peuple. Et Dieu a écouté son serviteur. La Bible dit que Moïse se tenait au milieu entre les vivants et les cadavres. Et quand Moïse est tenu au milieu, la mort qui était dans les cadavres ici n'a plus contaminer ceux qui étaient de l'autre côté. Et c'est comme ça qu'ils étaient guéris. Mais n'eût été la compassion de Moïse, tout le peuple serait fini. Tout ça, c'est pour que le Seigneur puisse savoir qu'il est saint et que ceux qui le servent doivent aussi être saints. Et la sainteté de Dieu, d'Israël, est telle que même ceux qui servent comme sacrificateurs, il y a par exemple deux fils d'Aaron qui étaient grands sacrificateurs. L'homme qui s'appelait Nadab et l'autre Abihu, ils étaient des prêtres consacrés. Ils ont été coupables de la négligence. La Bible dit, ils ont été carbonisés par un feu. Ça, c'est Lévitique 10, 1 à 2. Il est dit, le feu sortit de devant l'Éternel, ils moururent devant l'Éternel. Donc, le Seigneur est capable de vous faire mourir devant lui. Or, nous savons que devant le Seigneur, il y a la vie. Mais si tu viens devant le Seigneur et tu ne veux pas vivre selon ce qu'il veut que tu vives, là où il y a la vie, il y aura la mort. La vie va se transformer en mort. Un autre exemple, c'est que les espions, Moïse avait envoyé des espions pour la terre promise. Ces espions-là ont été frappés de mort. Pourquoi? Parce que quand ils sont revenus, 10 d'entre eux, parce qu'ils étaient à 12 représentants de chaque tribu, 10 ont découragé le peuple. Et ils ont dit, en tout cas, nous ne serons pas capables de vaincre ce peuple-là. La Bible dit que le Seigneur les a fait tuer. Lisez Nombre 14, 37, vous allez trouver cela. Le Seigneur a tué ces 10 personnes parce qu'ils ont découragé. La faute, c'était quoi? La non-confiance à la force de Dieu. Parce qu'ils avaient vu que les gens étaient géants, très élancés. Alors, ils se sont comparés, ils ont dit, en tout cas, nous ne ferons rien. Et le Seigneur a vu qu'avec cette manière de dire, vous voulez montrer au peuple que je ne suis rien. Je ne peux même pas faire quelque chose pour votre libération. La solution, ce n'est pas de vous enseigner pour que vous changiez, mais la solution, c'est de vous exterminer. Oui. Et toute la génération rebelle, on nous dit souvent que le peuple d'Israël a fait 40 ans dans le désert. Ce n'est pas concevable que les gens quittent de l'Égypte à Canaan aient fait 40 ans. Non, ce n'est pas concevable. Ce n'est pas très loin. 40 ans dans le désert. Si vous lisez Nombre 32, 13, vous allez comprendre la raison pour laquelle Dieu les a amenés à faire 40 ans. Tous les gens qui sont sortis de l'Égypte qui avaient plus de 20 ans, le Seigneur avait dit, comme vous vous êtes rebellés contre moi, vous n'avez pas eu confiance en moi, vous n'entrerez pas dans la terre promise. Je peux tuer certains, les autres que je ne tuerai pas, on va faire 40 ans en train d'errer jusqu'à ce que le dernier meure. Et comme ça, je vais avancer avec les autres. Moïse et Aaron, ils étaient aussi parmi ceux-là qui ne sont pas arrivés. Donc, il ne faut pas penser que lorsque tu es tel ou tel, tu es ceci devant le Seigneur, que la grâce du Seigneur va oublier même les fautes que tu peux commettre. Non. Mungu hana upendeleo dans tout ce qu'il fait. Ce qui étonne, une autre chose qui étonne dans la colère de Dieu, quelquefois, on peut penser que le Seigneur aussi, il n'a pas eu raison dans sa colère. Si vous lisez 2 Samuel chapitre 6, le verset 6 à 10, il y a une histoire ici. David amène l'arche de Dieu à Jérusalem. dans sa maison, dans la maison de Dieu, dans son palais. Il y a un homme qu'on appelle Uzza. Un homme qu'on appelle Uzza, il était bénévole. Il n'était pas de la famille des Lévites. Mais il a été frappé et il est mort parce qu'il a allongé ses bras pour protéger l'arche de l'Alliance qui était en train de tomber. Donc, quand on amène l'arche de l'Alliance, la Bible dit que David avait mis l'arche sur un char. Il y avait celui qui était devant et Uzza était de l'autre côté. Pendant que le char était en train d'aller de l'avant, à un moment donné, l'arche de l'Alliance, bon, le français dit, avait tanké. Donc, il pengama kaivi. C'est ça. Alors, Uzza, il dit, je ne peux pas quand même permettre que l'arche de l'Alliance tombe. Bénévole, avec son esprit à bien, il veut faire du travail pour Dieu. Il veut faire du travail pour Dieu, mais voici ce que dit 2 Samuel 6. Lorsqu'ils furent arrivés à l'heure de Nakon, Uzza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que le bœuf la faisait pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uzza. Et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uzza mourut là, près de l'arche de Dieu. Voici la réaction de David. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uzza de tels châtiments. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et il dit, « Comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi ?» Cette arche va chez moi. À cause d'un jour, il voit qu'il y a des erreurs. Il sait que non, maintenant, quel sera mon sort? Non, je dois, en tout cas, cette arche. Si vous lisez le verset qui va suivre, il avait amené l'arche ailleurs. Et après 3 mois, il a ramené l'arche. C'est après quand il ramenait l'arche, là où il y a l'histoire de dire. Il avait dansé jusqu'à ce que Ngoze Kanguka et les autres. Maintenant, comment se comporter devant le Seigneur qui est comme ça? Il est possible, par exemple, ici, il y a la Sainte-Seine ici. Il est possible que quelqu'un sorte de là et dire eh, non, haïta Nguka na tout konaon. Et il vient placer ça comme il faut. Et la colère de l'Éternel s'abat sur la personne. Mais qu'est-ce qu'il a fait de mal? Le problème, c'est que cette personne a oublié qu'il n'était pas lévite. C'était ça le problème. Il n'avait pas l'autorisation de toucher. Donc, il fallait qu'il laisse ça tomber. C'est le Seigneur qui devait savoir. Alors nous avons besoin, quand nous marchons avec Dieu, nous avons besoin de l'esprit de discernement. Discerner, savoir, qu'est-ce que le Seigneur veut ici? Est-ce que c'est moi qui dois faire ça ou c'est comment? Et le Saint-Esprit, nous avons besoin que le Saint-Esprit nous éclaire. Que lorsque nous servons le Seigneur, il est possible que tu serves le Seigneur, tu te donnes corps et âme, et le Seigneur ne voit pas ce que tu es en train de faire. Il ne voit pas ce que tu es en train de faire. Est-ce que nous pouvons penser que ces choses se sont passées dans l'Ancien Testament, période où la grâce n'était pas encore là? Il est possible que nous puissions penser de cette manière. La grâce n'était pas encore là. Jésus n'était pas encore né, celui qui nous amène la grâce, celui qui nous amène le pardon des péchés. Bon, on ne peut pas dire oui, parce que il est vrai, Jésus, sur cette terre, quand il vivait sur cette terre de son vivant, nous n'avons pas appris là où il avait ordonné que quelqu'un soit mort ou que quelqu'un soit tué. Pourquoi? Parce que sa mission était de donner la vie. Il ne pouvait pas se comporter différemment de la mission qu'il est en train de vouloir accomplir. Mais dans sa colère et sa jalousie qu'il a du lieu de prière, il est arrivé à Jérusalem au temple, il a chassé les vendeurs et dispersé leurs biens. Ce Dieu de compassion, où était sa compassion envers ses enfants qui se nourrissaient grâce au business qui se faisait là-bas? Il y a des gens qui se nourrissaient à cause de ça, mais il n'a pas eu pitié. Quand il s'agit de la sainteté de Dieu, le Seigneur tranche. Et il se met du côté de la sainteté. Il ne peut, peu importe les conséquences qui vont survivre, qui vont venir, mais il va se mettre du côté de la sainteté. C'est-à-dire sa miséricorde, sa grâce, ses bontés, ses compassions ne sont pas synonymes du désordre. La compassion de Dieu, la grâce de Dieu n'est pas synonyme du désordre. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? L'histoire que nous avons lue dans Actes des Apôtres, c'est une histoire malheureuse d'Ananias et Saphira. Cette histoire confirme la permanence de l'aspect dévorant du Dieu que nous lisons dans la Bible. Même après la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, l'aspect dévorant de Dieu demeure. L'aspect dévorant de Dieu demeure. Oui, nous devons savoir que le Dieu de Jésus-Christ que nous servons, il est redoutable. Tous ceux qui l'approchent doivent l'approcher avec joie mêlée de crainte et tremblement, comme je l'ai dit. Les gens qui ont voulu amener le mensonge dans l'assemblée de Dieu, dans la congrégation, le Seigneur a vu que c'est très important qu'il soit mis à côté. Pas qu'il ne vienne plus se rassembler avec les autres, mais qu'il meure directement. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous dit, lorsque nous devons nous approcher aux choses saintes ou aux choses sacrées, que chacun donc se prouve soi-même. Ça, c'est 1 Corinthiens 11, 28 à 30. Quand vous allez vous éprouver vous-même, vous allez manger du pain et boire de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et que grand nombre sont morts. Dans l'Ancien Testament, on comptait le nombre de ceux qui étaient morts. Mais ici, on dit, peut-être c'est la raison pour laquelle plusieurs sont malades, plusieurs sont morts. On ne les compte pas. Donc, pour dire que, et l'Ancien Testament, et dans le Nouveau Testament, jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur, et il nous appelle à discerner, à voir lorsque nous nous approchons des choses qui sont sacrées. Bien-aimé dans le Seigneur, tu connais ta vie. Tu connais comment tu marches avec le Seigneur. Tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre te dise que tu n'es pas digne de communier à la Sainte Cène ou servir Dieu dans tel ou tel autre ministère. En tout cas, tu n'en as pas besoin. Toi-même, tu peux te dire et savoir comment je suis. Donc, vous devez vous excommunier vous-même. N'attendez pas que l'Église dise Kufatana na hii, fulani, alifanya hivi, tunamutenga kwa miezi sita. Non, faites-le de vous-même par votre conscience. Parce que l'Église ouvre ses portes, Jésus avait dit, je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alors l'Église ici commence maintenant à chasser ceux qui sont perdus, comment Jésus va encore les retrouver? Et ailleurs, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Alors, si nous chassons les malades parmi nous, comment ils vont guérir? Donc, nous devons les guérir parmi nous ici. Si tu es assis avec un malade là, c'est toi le médecin qui est à côté. Tu dois lui en parler. Si nous les chassons, comment tu vas l'avoir? Et donc, il est possible que vous sachiez que telle ou telle autre personne en ces lieux, il n'est pas digne de prendre la Sainte Cène. Ne vous fâchez pas contre l'Église. Qui ne excommunie pas cette personne-là? Fâchez-vous contre cette personne-là qui n'a pas de conscience par rapport à son comportement. La colère de Dieu est suspendue. Pour quiconque peut s'approcher de la sainteté de Dieu sans en être digne. La colère de Dieu est suspendue. Oui, tu es ici. Toi-même, là, tu sais la relation que tu vis avec ta femme ou ton mari. Tu sais que tu as une deuxième femme, troisième femme. Les gens peuvent même la connaître ou ils ne la connaissent pas. Mais ta conscience te dit quand même que tu peux venir t'approcher de la table du Seigneur. Unakwaza wengine wenye wanajua. C'est très important d'être conscient de ce que vous faites, de ce que vous êtes. La manière dont vous gérez cette entreprise-là, vous êtes le gérant. La manière dont vous gérez les autres, est-ce que c'est de la bonne manière, la manière de la sainteté? La manière dont vous gagnez votre argent, est-ce que c'est de la bonne manière? La manière de la sainteté et qui peut vous permettre d'avancer vers les choses saintes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de savoir que l'histoire d'Ananias et de Saphira, qui s'est passée au début de l'histoire de l'Église, sert de préventif ou de prévention contre tout usage abusif de la grâce de Dieu. Nous devons toujours mettre dans nos têtes que le Dieu de Jésus-Christ, le Père de grâce, il est et il demeure le Dieu redoutable qui doit être adoré dans sa sainteté, dans la crainte et dans la vérité. Comme il est dit en Hébreux 12, 29, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Que Dieu nous aide, bien-aimés dans le Seigneur. Ne prenons pas les choses de Dieu à la légère parce qu'il nous regarde. Nous ne devons pas abuser de la patience de Dieu, de la bonté de Dieu, mais nous devons revenir à nous-mêmes. Qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que nous faisons? S'il y a de malentendus entre vous, qu'est-ce que vous faites pour que cela soit dissipé? Afin que vous puissiez continuer à vivre la parole de Dieu dans la sainteté. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Oui, c'est toi qui nous as aimés et tu nous as mis en alliance avec toi. Ce peuple qui se réclame d'être en alliance avec toi a en même temps besoin de toi. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ce que tu es et ce que tu veux dans notre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu écoutes une voix qui te dit que tu dois changer ce que tu fais, tu dois revenir en Christ. Ça fait longtemps que tu as joué avec la grâce de Dieu. Tu as souvent des problèmes de gestion d'argent. Pour toi, prendre ce qui ne t'appartient pas, il n'y a pas de problème. La convoitise. Pour toi, donner du poison à quelqu'un d'autre, il n'y a pas de problème. Tu utilises même des gris-gris. Ce sont tes autres dieux. Alors que Dieu a dit, tu n'auras pas d'autres dieux devant sa face. Et tu les fais pour le mal des autres, c'est possible. Prie que le Seigneur t'aide et que tu puisses faire un pas encore une fois vers lui et de dire, Seigneur, je suis ici. J'ai besoin d'échanger. J'ai besoin que tu m'aides, que tu m'accompagnes. Si Dieu a établi ses serviteurs en ces lieux, c'est pour vous aider, pour nous aider dans ce sens-là. Nous avons des pasteurs, nous avons des anciens de l'Église, nous avons ceci ou cela. Les gens confidents que vous avez, qui peuvent vous aider, approchez-vous de ces gens-là, afin qu'ils vous aident. Peut-être que tu veux sortir de là, mais ça ne t'y est pas. Tu peux t'approcher d'un serviteur de Dieu, afin qu'il prie pour toi, et que le Seigneur fasse sa volonté dans ta vie. Oui, Seigneur, bénis chacun de nous. Que cette église soit sainte, Seigneur. Tu connais chacun dans son cœur. Tu connais ce que nous sommes. Seigneur, aide chacun de nous. Papa, maman, jeunes, enfants, nous avons tous besoin de marcher dans ta sainteté. Oui. Aide-nous, Seigneur, et accompagne-nous. Si tu sens que tu peux voir quelqu'un à la fin de ce culte, n'hésite pas à voir un des serviteurs de Dieu qui peut t'aider. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, amen. Que Dieu nous bénisse, amen. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire et que humain. Il est plus grand que les espaces, même en abîme, il nous atteint pour les péchés de notre monde. Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne aux paix profondes. Il sauve les perdus. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans.